besoin de ton œuvre dans nos cœurs, par l'œuvre de ton esprit, pour nous façonner en tant que disciples de Jésus-Christ. Donc sois ton œuvre, glorifie ton nom, et nous te le demandons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, il y a une citation souvent attribuée à Michel-Ange, ou parfois on l'appelle plutôt Michelangelo, qui dit ceci. Est-ce que c'est de lui? Je ne suis pas certain. Le plus grand danger pour la plupart d'entre nous n'est pas que notre but soit trop élevé et que nous le manquions, mais qu'il soit trop bas et que nous l'atteignions. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, ni si Michel-Ange l'avait dit, mais notre texte, la deuxième partie donc de notre texte, versets 9 et suivants, nous encourage à voir nos priorités, les nôtres, en tant que disciples de Jésus-Christ. Alors, il se peut que vous êtes parmi nous en visite ce matin, vous êtes les bienvenus, et peut-être vous vous dites, mais je ne me considère pas être disciple de Jésus-Christ. Et dans ce cas, je vous invite, de par ces versets, à découvrir de ce que cela impliquerait pour vous de devenir croyant en Jésus-Christ. Vos attentes à propos de Dieu, de la prière que vous lui adressez, une vie qui lui plaît, les moyens que vous employez pour atteindre vos objectifs. Et c'est aussi l'occasion donc pour ceux parmi nous qui réclament une foi personnelle en Jésus-Christ, de voir comment continuer ma vie de disciple autour de la réalité que cette lettre de l'apôtre Paul vise. Et c'est quoi cette réalité? Que Christ, Jésus-Christ, il est suffisant et satisfaisant pour l'ensemble de notre parcours dans la foi. Il ne faut pas ajouter des choses à Jésus-Christ, à notre foi en Jésus-Christ. Car en lui, il y a tout. Et comme dit le chapitre 2, verset 3, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc il ne faut pas ajouter à Jésus, mais il faut plutôt grandir en lui. Et ça, ça nous mène à notre premier point. Vous allez voir donc le plan ici sous les yeux, sur le dos des prières de la semaine. Et ce premier point est formé en tant que question. Que demandes-tu lorsque tu pries? Que demandes-tu lorsque tu pries? Le verset 9 de notre texte démarre en disant « C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris. » Alors attends, qu'est-ce qu'ils ont appris? Selon le verset précédent, le verset 8, ils ont appris de quel amour l'Esprit vous anime, les anime. Et cela, d'après notre étude de la semaine dernière, grâce à leur foi en Jésus-Christ et l'espérance qu'ils ont découvert dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous voyons ça au verset 4 et 5. Donc au lieu de mener Paul à se dire « Super, super, ils ont la foi, ils ont l'amour, ils ont l'espérance. » Donc maintenant, je peux leur parler d'autres choses, des actualités à propos de la politique du jour. Car la case « foi » est cochée. Plus besoin d'en parler. Non, ce n'est pas comme ça qu'ils procèdent, c'est le contraire. Le fait d'entendre parler de ces vertus, foi, espérance, amour, pousse l'apôtre Paul à prier justement de manière conséquente pour ses Colossiens autour toujours de ces mêmes vérités. Et donc il continue, nous ne cessons de prier. Et comment est-ce qu'il prie pour eux? Pour la bonne santé? Pour la chassesse d'un choix pour un nouveau travail? Que Dieu pourvoie pour leurs besoins relationnels? Que Dieu les aide pour qu'ils réussissent le prochain examen ou contrôle à l'école ou au travail? Alors, avant de dire que de telles prières ne sont pas du tout légitimes, nous devons affirmer que nous gardons d'ailleurs à l'esprit qu'ailleurs, ce même apôtre Paul, il a dit ceci, Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Il est, bien sûr, notre Dieu, notre Père céleste. Il n'y a rien de trop petit pour lui. On peut, et donc d'ailleurs nous devons, venir à lui avec toutes sortes de requêtes et supplications. Mais ce n'est pas parce que cela est vrai que la prière qui caractérise l'apôtre Paul est orientée autour de nos besoins ressentis. Non. Donc, si la suite de ce qu'il prie ici dans ce texte est inconnue pour nous ce matin, c'est une belle occasion pour nous de poser cette question. Que demandes-tu lorsque tu pries pour toi-même et lorsque tu pries pour les autres? Paul y prie pourquoi? En bref, il prie pour la maturité chrétienne. Et donc, il continue de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Que nous arrivons donc à comprendre au maximum sa volonté, la volonté de Dieu, bien entendu. Et ici, lorsque nous disons sa volonté, nous devons aussi éviter l'erreur de nos jours qui pense que la volonté de Dieu reste orientée toujours autour de moi. Qu'est-ce que Dieu veut que moi je fasse? Son plan pour moi, c'est quoi aujourd'hui? Mais la volonté de Dieu dans cet épître aux Colossiens tourne autour de la révélation de Dieu envers l'homme, suprêmement une révélation en Jésus-Christ. Et donc Paul prie que nous comprenions la portée de cette révélation, de cette volonté révélée pour notre univers tout entier, pour le peuple de Dieu dans son ensemble, pour son Église, et oui, aussi pour moi, membre de son peuple. Et pour pouvoir puiser la connaissance de sa volonté, qu'est-ce qu'il faut dans cette prière? Toute sagesse et intelligence spirituelle. Car la vraie sagesse et intelligence viennent ultimement de Dieu. Et c'est pour ça que Paul y prie, il sait ça. Car justement, ce n'est que Dieu qui peut nous faire grandir dans ses qualités. Mais dans quel objectif est-ce qu'on prie qu'il nous donne cette sagesse et cette intelligence? Que nous devenons ici des gourous spirituels qui cherchent chacun leur tour à faire part aux autres notre intelligence et spiritualité supérieure? Non, la vraie spiritualité n'a jamais pour but de faire gonfler l'ego de l'homme. Non, verset 10, « Pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tout point de vue. » Et cela nous mène donc à notre deuxième question. Que cherches-tu dans la vie chrétienne? Que cherches-tu dans la vie chrétienne? Car si Paul prie qu'ils arrivent à se comporter d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tout point de vue, par la suite, il rend explicite ce que cela signifie. Quatre applications concrètes, Paul met en avant pour que les Colossiens, et donc nous aussi ce matin, nous soyons sensibilisés à manifester dans notre vie chrétienne de tels signes de maturité dans la foi. Ces quatre domaines sont précédés chacun avec une expression dans notre texte d'exhortation qui ici se trouve dans le subjonctif. Verset 10, « Afin de lui plaire à tout point de vue, que vous portiez du fruit, premier domaine, que vous croissiez, verset 11, deuxième domaine, que vous deveniez puissant, troisième domaine, et le dernier, au début du verset 12, devait lire « Que vous rendiez grâce au Père ». Mais ici, ce n'est pas rendu exactement comme ça. C'est un impératif, « Rendez grâce au Père ». Donc, marcher ou vous comporter d'une manière digne du Seigneur, de lui plaire à tout point de vue, signifie quoi au juste pour l'apôtre Paul? Ben, il nous le dit dans ces quatre domaines. Voyons ces quatre domaines. D'abord que vous portiez du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes. Ceci ne doit pas nous surprendre, car la semaine dernière, nous avons appris que l'Évangile qui donne un espoir fait naître la foi en Jésus-Christ et donne suite à quoi ? À l'amour pour tous les saints. Un amour, verset 8, animé par l'Esprit de Dieu. La maturité chrétienne se voit par une joie de faire le bien autour de nous. De ne pas rester inactif ou encloisonné dans notre bulle, même notre bulle chrétienne, mais d'être une influence positive et bénéfique pour tous ceux qui se trouvent autour de nous. Toutes sortes d'œuvres bonnes, cela rend l'application très large, n'est-ce pas? Car en effet, à tout moment, en toutes circonstances, nous sommes appelés à un tel comportement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit le Seigneur Jésus. Exclue alors la personne qui soit attentive aux besoins des autres ici à l'église le dimanche matin parce qu'on se sent en sécurité parmi d'autres croyants, mais qui, dans sa colocation ou dans sa résidence ou dans son appartement, soit difficile et très critique envers les autres. Exclue la personne qui veut faire un effort lorsque l'Église demande de l'aide dans un domaine ou un autre, mais qui refuse catégoriquement de faire un effort supplémentaire de temps à autre au travail. Exclue une version de la foi qui est séparatiste, si vous voulez, qui cherche donc la sécurité, le confort de notre sous-groupe sans avoir le moindre regard pour le bien des autres qui se trouve autour de moi. Certes, nous ne devons pas aplatir toute distinction entre l'Église et ce que la Bible appelle le monde, mais nous devons faire attention de nous retirer du monde. Car si nous ne sommes pas, selon Jésus, du monde, ce qui est le cas si nous l'appartenons, nous sommes envoyés par Jésus dans le monde. Et cela se voit par une belle diversité de belles œuvres autour de nous. Au lieu d'être passif, un peu comme un adolescent grincheux qui peut y avoir dans nos familles, de faire quelque chose uniquement lorsqu'on nous demande de faire quelque chose, oh oui, ok, je dois le faire. Non, le chrétien mûr prend de l'initiative, porte du fruit, dit l'apôtre Paul, dans toutes sortes d'œuvres bonnes. Humblement, une telle personne cherche de telles occasions. Elle n'a pas besoin de devoir être demandé de faire le bien, mais prend du plaisir, humblement, à faire toutes sortes de belles œuvres. Deuxième domaine que l'apôtre Paul mentionne, la croissance dans la connaissance, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu, il dit. Donc le deuxième signe de maturité chrétienne, c'est le fait de grandir, de croître dans la connaissance de Dieu. Si Dieu se révèle à l'homme par la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cela signifie, nous l'avons vu la fois dernière, que nous pouvons connaître ce Dieu. Alors, bien entendu, nous ne le connaissons pas parfaitement parce qu'il est plus grand que nous. Mais toutefois, nous le connaissons réellement à travers la révélation de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, en qui habite, on verra ça la semaine prochaine, toute la plénitude de Dieu. Donc, plaire à Dieu, lui plaire, égale pour l'apôtre Paul, prend du plaisir à faire sa connaissance. Alors maintenant, imaginons que toi ici présent, tu gagnes, toi et un ami, un concours pour un week-end de luxe dans une résidence privée quelque part en Belgique, à la campagne, avec piscine, terrain de tennis, parc pour se promener, pour faire du cheval, lac pour faire de la pêche. Et le soir, vous mangez comme des rois avec un chef étoilé privé. Vous êtes là depuis 24 heures. C'est au milieu de votre week-end. Vous vous régalez et c'est gratuit. Et le hôte arrive en après-midi de samedi. Il vous invite à prendre le thé en terrasse avec lui. Et vous lui dites, bon, écoutez, non, désolé, mais nous devons plutôt passer à la gym, car notre programme pour ce week-end, c'est trop chargé, vous savez. Il vous dit, bon, très bien, pas de souci. Qu'en est-il d'un drink, alors, avant de manger ce soir? Et vous lui dites, bah, non, c'est gentil, mais non, nous devons plutôt regarder un film, car c'est le plus grand écran que j'ai jamais vu de ma vie que vous avez ici, dans ce château. Bah, ce serait totalement bizarre d'agir de la sorte, n'est-ce pas? C'est inconcevable de bénéficier de la générosité de quelqu'un sans vouloir découvrir plus sur la personne qui nous a comblé de sa générosité. Réclamer donc la générosité de Dieu au travers de la bonne nouvelle de Jésus-Christ sans vouloir ensuite grandir dans notre connaissance de ce même Jésus, c'est également, selon le Nouveau Testament, inconcevable. Mais alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie, grandir dans la connaissance de Dieu? Mais de nouveau, ce n'est pas aussi compliqué que parfois on peut imaginer. Il faut prendre du temps à lire, à méditer la parole de Dieu. Car dans cette parole, Dieu se révèle à nous. La parole de Dieu, lorsque nous sommes ici, le dimanche matin, exposée pour nous tous, mais la parole de Dieu également dans la famille, la parole de Dieu dans le privé de ma chambre, de mon appartement. Alors, ce n'est pas pour cocher une case. Je suis un bon chrétien car aujourd'hui, vous savez quoi, j'ai lu ma Bible. Non, si c'est ça, ça devient légaliste. Mais pourquoi nous lisons la Bible? Pour découvrir davantage sur le Dieu qui se révèle à nous. Car Dieu, il faut qu'on soit ici clair là-dessus. Dieu, il ne se révèle pas de façon mystique, éphémère, mais de façon concrète. Car Dieu est un Dieu qui se révèle, qui se fait connaître, à travers ses actes qu'il a fait dans notre monde à nous et à travers également l'explication de ses actes que sa parole nous donne. Donc c'est ainsi, chers amis, exposés donc à ses paroles que nous grandissons en amour, en reconnaissance, en foi, en espérance, car nous comprenons que ce Dieu qui se fait connaître à nous, il est digne de notre confiance. Donc à la personne qui dit « trop occupé, tu sais, pour que je lise sa parole, pour que je fréquente régulièrement une église », il y a une part de moi qui comprend, bien sûr, j'ai aussi parfois un programme chargé. Nous devons reconnaître cela. Mais il y a une autre part de moi qui dit « mon ami, ne sois pas aussi bête de se cacher derrière la réalité que vous êtes occupé. Car déjà, tu sais, dans la vie courante, que la formation, que l'apprentissage fait partie d'une vie adulte pour grandir. Et donc, laisser ta foi au même niveau qu'elle était lorsque tu quittais l'école de dimanche, Wallu Kids, il y a plusieurs années. Bah, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu crois que Dieu, le Dieu qui est là, il n'est pas à la hauteur de ta maturité en tant qu'adulte. Alors j'aimerais dire, humblement je l'espère, quelle arrogance de ta part, quelle arrogance de penser que Dieu n'est pas à la hauteur de là où toi tu es, mûr dans ta vie d'adulte. À la personne qui dit, bah, tu sais, c'est pas que je suis super occupé, mais j'aime pas trop lire. J'ai envie de dire que de nouveau, je comprends. Parfois, il y a certains d'entre nous qui aiment lire plus que d'autres. Mais ensuite, après un échange avec Evelyne, Evelyne, elle est là aujourd'hui? Je n'ai pas vu Evelyne. Bah, j'ai échangé. Ah, elle est là. J'ai échangé avec Evelyne et Diego la semaine dernière par rapport au volcan au Guatemala. Et ils ne sont plus, Diego, avec, avec Pablo, qui est parmi nous pour la première fois depuis cet été, ce matin. Ils ont monté un matin pour voir un volcan, pour être tout près d'un volcan. Et ça m'a frappé parce que c'était, il y avait dans la région des volcans actifs. Actifs, pardon. Un volcan, voilà, on y arrive. Alors, imaginons, tu dis, je n'aime pas trop lire, je veux monter ce volcan le matin, mais parce que j'aime pas trop lire, ça m'intéresse pas du tout de lire sur l'application que j'ai de la région qui donne des avertissements si c'est une bonne idée de monter ici ou pas. Non, vous lisez, on laisse comme ça, j'entends, c'est bon, avec le vent, je pense qu'il n'y a pas de souci. Vous lisez pourquoi à ce moment-là? Vous lisez parce que vous voyez le besoin de lire. C'est important. Donc, se dire alors que j'aime pas lire la Bible, tu sais, signifie que ça vaut pas l'effort. C'est pas aussi important que ça. Alors, cela signifie que tu as une très basse estime de ce Dieu qui se révèle à vous. À la personne qui dit, pas trop occupé, pas que j'aime pas lire, mais il y a trop que je ne comprends pas, tu sais, quand j'essaie de lire. J'ai envie de dire, amen. Il y a beaucoup que moi aussi, je ne comprends pas quand je lis. Mais j'ai aussi envie de dire, voilà pourquoi il y a un rassemblement chrétien pour nous aider à comprendre ce qui est dit. Et regardez les nombreuses ressources qui existent, qui nous aident pour grandir dans notre compréhension de la parole de Dieu. Croître dans la croissance de Dieu, ça fait signe de maturité, les amis. Nous en avons besoin lorsque nous contemplons aussi le troisième indice de maturité, la persévérance et la patience. Paul continue donc, « Et que vous deveniez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. » Une persévérance et une patience à toute épreuve. Selon un commentateur, on pourrait dire qu'il faut de la persévérance face à des circonstances difficiles et de la patience face à des personnes difficiles. Peut-être quand même, nous pouvons affirmer que les deux qualités, persévérance, patience, sont toutes les deux nécessaires, qu'il s'agit des circonstances difficiles ou des personnes difficiles. Mais une chose est sûre, dans notre parcours de la foi, des circonstances difficiles et des personnes difficiles, il y en a. Mais la maturité chrétienne vise la persévérance. Qu'on soit cambriolé trois fois dans trois ans, comme c'est le cas pour un frère parmi nous, qu'on soit accablé par une maladie chronique, c'est le cas pour d'autres, qu'on soit découragé quand je suis dans une situation stressante au travail, qu'on ressent la solitude quand je me retrouve seul, que je veux lâcher la foi en Jésus-Christ, quand j'arrive pas totalement à me débarrasser de mon péché et cette lutte me semble trop rude. La maturité chrétienne vise la persévérance et aussi la patience. Car oui, des personnes peuvent parfois parler trop vite sans prendre la peine de bien comprendre mes circonstances. Ça arrive même dans l'Église. Car oui, des frères et sœurs peuvent parfois être faux insensibles dans leurs propos sans réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Car oui, certaines personnes seront d'office trop sensibles à tout ce qu'on dit et trouveront donc moyen de mal comprendre mes propos, bien qu'il n'y avait rien de mal intentionné là-dedans. Car oui, mes frères et sœurs, cela arrive trop souvent que nous oublions que l'amour, selon le Nouveau Testament, couvre une multitude de péchés, qu'il n'y a pas besoin de critiquer quelqu'un d'autre, de corriger quelqu'un à tout moment, qu'il nous faut de la patience pour supporter les uns les autres dans l'amour. Et c'est donc le quatrième signe de maturité qui nous permettra de relativiser nos plaintes. Et il s'agit bien sûr de la reconnaissance. Déjà, Samuel, on a parlé de différents textes qui parlent de cette reconnaissance. Mais ici, à la fin du verset 11, Paul dit donc, « Avec joie, rendez grâce au Père, que vous rendiez grâce au Père. » Alors, oui, la reconnaissance fait partie aussi de la maturité, que la première chose qui sort donc de notre bouche soit la reconnaissance plutôt que la plainte. Comment devons-nous exprimer cette reconnaissance ? Avec joie. C'est pas forcé, vous voyez. C'est authentique, c'est vrai. Alors, pour nous aider avec cela, je raconte une petite anecdote familiale. Il y a un Noël, il y a bien des années, mes parents, d'ailleurs ma mère, elle est avec nous ce matin, ils avaient reçu différents membres de la famille chez eux. Je pense que j'avais, moi, à peu près 6-7 ans à ce moment-là. Différents membres de la famille élargie arrivaient chez nous au fur et à mesure. Et bien sûr, à la porte, la première chose à Noël qu'un membre de la famille disait à un autre membre de la famille, c'est la salutation classique que vous connaissez, « Joyeux Noël ». Et ça s'attend à quelle réponse ? Oui, « Joyeux Noël ». Okay? Donc ça, jusque-là, on est tous d'accord. Alors, j'ai un oncle, donc c'est le frère de ma mère, qui a une petite réputation dans notre famille de ne pas vouloir toujours jouer le jeu comme les autres. Et lorsque un autre membre de la famille, le moment où lui, il franchissait le seuil de la maison dans le hall d'entrée, a salué cet oncle en proférant le traditionnel « Joyeux Noël », il répondait clairement « Vraiment ?» Alors, bravo à lui pour sa franchise. Mais là, les circonstances du moment prennent le devant devant ses émotions. Souvent, c'est la comparaison avec d'autres, n'est-ce pas, qui ne permet pas que je sois reconnaissant. Ah oui, peut-être que j'ai un PlayStation, mais l'autre a un iPhone 16 S Plus ou je ne sais pas quoi. Peut-être que j'ai une voiture. Ah, mais tu as vu la voiture de l'autre. Peut-être que j'ai des moyens pour louer un appartement, mais l'autre, il a pu acheter son appartement. Peut-être que je suis propriétaire d'un appartement, mais l'autre, il a une maison. Peut-être que j'ai des amis, mais l'autre a un conjoint. Peut-être que j'ai un conjoint, mais l'autre a un mariage heureux, et ainsi de suite. Comment ne pas jouer ce jeu? Comment avoir de la reconnaissance sans la forcer, cette reconnaissance? Bon, il suffit, les amis, pour le croyant de réfléchir, pas sur ce que nous n'avons pas, mais sur ce que nous avons. C'est ça ce que Paul fait par la suite au verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. » Comment avons-nous cet héritage dans la lumière? Verset 13, « Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Oui, comme le résume Paul au verset 14, c'est « en lui, Jésus le Fils, que nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. » Alors, la rédemption, bien sûr, évoque l'Exode, la délivrance du peuple Dieu de l'esclave en Égypte, mais aussi ce langage employé ici par Paul parle du nouvel Exode, le retour du peuple de Dieu en exil. Voici juste 2-3 versets du psaume 107, parce qu'il y a des similarités là. Verset 1 du psaume 107, « Louez l'Éternel, car il est bon. » Donc la reconnaissance. « Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi. » Verset 13 de ce psaume, « Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. » Et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Et s'il avait fait ça à l'époque de l'Ancien Testament, lors du retour de l'exil, alors maintenant la délivrance définitive a lieu en Jésus-Christ. Nous sommes rachetés de notre esclavage au péché par notre foi en lui. Nous sommes délivrés donc des ténèbres pour être dans la lumière, dans le royaume de son Fils. Comment ne pas être reconnaissant lorsque nous détournons notre regard de ce qui nous manque dans notre vie de tous les jours vers ce que nous avons reçu. Et alors, grâce à ça, ce qui nous attend, l'héritage des saints dans la lumière, cette espérance qui nous est réservée dans le ciel. Donc, la maturité chrétienne se contente de ce que nous avons, car ce que nous avons va beaucoup plus loin de ce que nous n'avons pas. Alors voilà quatre façons, selon l'apôtre Paul, de marcher d'une manière digne du Seigneur, de lui plaire à tout point de vue. Dans un certain sens, j'ai envie de dire, ces quatre domaines sont plutôt ordinaires pour finir. Il n'y a rien de forcément spectaculaire et impressionnant pour plaire à Dieu. Pratiquer le bien autour de nous, grandir dans la connaissance de Dieu, persévérer face à l'épreuve et avec joie manifester la reconnaissance à Dieu. Mais d'un autre côté, ces quatre qualités font preuve de quelque chose d'extraordinaire, car cela témoigne de l'œuvre de Dieu en nous, grâce à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cela nous amène à notre dernière question ce matin. Sur qui comptes-tu pour atteindre ces objectifs? Car il y a un danger, bien sûr, de se dire « Oui, tout à fait, je vois ces quatre domaines, je dois mieux faire. » Lorsque nous entendons ce que c'est de mener une vie qui plaît à Dieu. Mais nous ne devons pas oublier que nous entendons parler de ces différentes façons de plaire à Dieu dans le contexte d'une prière. Une prière de Paul, que les Colossiens soient remplis par Dieu de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, nous ne comptons pas sur nous-mêmes pour pouvoir vivre une vie digne du Seigneur, mais nous prions les uns pour les autres pour que de telles qualités soient évidentes en nous. J'espère, chers frères et sœurs, que vous priez comme Paul y prie ici pour vous-même et aussi pour les autres. C'est d'autant plus clair ce besoin de prier lorsque nous lisons le verset 11. Il dit « Que vous deveniez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. » C'est encourageant cela, n'est-ce pas? Il nous faut, selon Paul, la force glorieuse de Dieu, Dieu le Créateur, le Rédempteur, pour devenir puissants, nous, pour faire quoi? Convertir le monde non-croyant, le monde d'Islam dans l'ensemble qui vient à Christ, parce que la force de Dieu est déployée, établir la paix au Moyen-Orient, vaincre tout péché, toute déception dans ma vie? Non, non. Toute sa force glorieuse, pourquoi? En vue simplement d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Oui, Paul, il sait que la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint de 100 mètres, c'est plutôt un marathon, comme on aime dire, de 42 kilomètres. Beaucoup donc commencent la foi chrétienne avec enthousiasme. Mais pour arriver jusqu'au bout, il faut quoi? Il faut sa force glorieuse en nous. Et donc, nous devons prier que le Seigneur nous accorde cette force. Comme nous avons vu, si nous sommes exhortés à rendre grâce au Père avec joie dans ce texte, cela ne découle pas de ma force à moi. Comme si je dois dire, vas-y Steve, répète 10 fois avant le petit déjeuner, tu dois être reconnaissant, tu dois être reconnaissant, tu dois être reconnaissant, tu dois être reconnaissant, 10 fois. Comme ça, ok, super, je vais être reconnaissant. Mais ça vient de la dépendance que j'ai de lui, de ce que lui, il a fait pour moi, que je n'ai pas besoin, vous voyez, d'aller ailleurs qu'à lui, le Seigneur Jésus-Christ. qui s'est révélé à nous. Je n'ai pas besoin d'une vision personnelle, d'une spiritualité mythique, d'un doctorat en théologie ou d'une discipline spirituelle impressionnante. J'ai besoin de Jésus-Christ. Et donc, j'ai besoin de l'apprécier davantage. Christ, mes amis, il est à la hauteur de nos besoins. Notre dernier chant, on va terminer avec ça. Peut-être Samuel, il veut prendre la parole avant, mais les musiciens, je pense que déjà peuvent s'y mettre. Et peut-être on peut chanter déjà « Jésus, as-tu payé ?» et ensuite on termine avec « Un agneau sur son trône » pour renverser. Notre dernier chant nous dit ceci. Première strophe, « Entends-tu sa douce voix ?»« Mon enfant, prend ma main, bien que faible, viens à moi. » On est faible, nous sommes dépendants de lui. Nous prions les uns pour les autres parce que nous sommes faibles. Et puis que trouvons-nous? Jésus a tout payé. Ma dette est acquittée. La marque du péché effacée. Mon âme est purifiée. Oui, il nous a délivrés des ténèbres, rachetés par le sang de Christ. Et verset strophe numéro 4. Au grand jour devant le trône, en lui glorifié, Jésus mourut pour mon âme. À jamais, je le louerai. Parce que je suis reconnaissant déjà pour ce qu'il a fait pour moi. Et je peux l'être encore, peu importe les difficultés devant moi. Parce que je serai pour l'éternité en train d'exprimer ma reconnaissance envers lui. Donc je vous invite à se mettre debout. Et nous allons affirmer cette grande vérité ensemble, que Jésus a tout payé.